BFM Business Partenaire.
BFM Stratégie. Avec Frédéric Simotel. Sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans cette émission BFM Stratégie en partenariat avec le BCG Boston Consulting Group. Et si nous avons avec nous Patrick Dupoux, directeur associé senior BCG et spécialiste de l'Afrique, c'est que nous allons parler de l'Afrique. Bonjour Patrick.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Avec nous également Nachoat Mégouar, pardon. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directrice générale de la French African Foundation, fondation qui œuvre à la création de nouvelles générations de leaders engagés entre la France et l'Afrique, parce que ça va être notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'il y a quelques semaines se déroulait le Africa Forward Summit. On parlait d'innovation et de croissance. Il y avait de nombreux chefs d'entreprise français et africains qui étaient là-bas. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment mieux travailler ensemble, même si les liens ont toujours été assez forts entre la France et l'Afrique, mais justement, il faut parfois des relations plus apaisées entre certains et puis faire des vrais partenariats. Nachoat, vous étiez donc à ce sommet, Africa Forward Summit, qui s'est tenu à Nairobi. Qu'est-ce qui a marqué cette édition? Qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Bonsoir, bonjour Frédéric, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, je dirais pour commencer que pour la première fois de l'histoire des sommets Afrique-France, ce sommet s'est tenu dans un pays d'Afrique anglophone, au Kenya, à Nairobi. C'est un sommet qui était co-organisé entre la France et ses partenariats kenyans. Et puis surtout, pour la première fois de cet exercice, une réunion de haut niveau a rassemblé une trentaine de chefs d'État, puisqu'il y avait à peu près 34 chefs d'État et de gouvernement présents au Kenya, ce qui est assez exceptionnel en termes de mobilisation politique, et une quarantaine de CEO, de dirigeants économiques africains et français pour parler concret, pour parler partenariat économique et gagnant-gagnant.
Mais on a toujours l'impression qu'il y a ce sentiment d'urgence dès qu'on parle d'Afrique, urgence à accompagner, à aider. Est-ce qu'il est toujours là et comment faire justement pour que des échanges se mettent vraiment, enfin même si on en a déjà beaucoup, mais voilà, que ça se solidifie davantage.
Bah alors, je dirais que pour cette édition et aussi dans l'histoire du partenariat franco-africain, là, il ne s'agit plus d'urgence, il ne s'agit plus d'aider, mais il s'agit d'investir et d'investir ensemble, de produire ensemble. Et c'est peut-être là la nouveauté et le caractère inédit de ce sommet, puisque près de 23 milliards d'euros ont été annoncés d'investissement. Et lorsqu'on parle d'annonce, il ne s'agit pas de parader, mais on parle de projets très concrets, d'une coalition d'acteurs économiques très pragmatiques, centrés sur des investissements dans les infrastructures, dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrialisation de manière générale, dans le numérique et le digital, et aussi évidemment dans le capital humain. Donc tout ça se mesure, tout ça se quantifie et tout ça s'accompagne.
Et pour une population jeune en plus,
le
moyen d'âge selon les pays est assez jeune. Patrick, alors, cette convergence d'intérêts entre les deux continents, on le sait, l'Europe et l'Afrique ont l'habitude de collaborer ensemble. Et pourquoi aujourd'hui ça a été plus fort? C'est vrai qu'on parle toujours des deux blocs, l'Europe est coincée entre le bloc Asie et le bloc américain. On oublie souvent un peu l'Amérique du Sud et on oublie complètement l'Afrique.
Alors, l'Europe et l'Afrique ont des liens très forts. L'Afrique, c'est le seul continent sur lequel l'Europe est en tête sur les investissements étrangers, sur le nombre d'emplois créés, la présence d'entreprises européennes et notamment françaises qui est le pays le plus fort en Afrique, en Europe, et en termes d'échanges commerciaux. Mais en fait, on s'aperçoit que ces dernières années, ça stagne un peu, alors qu'en fait, le potentiel est très important.
On voit l'Asie qui pousse, les Chinois, on voit
exactement
les Chinois, ça fait.
Et aujourd'hui, en fait, depuis un an, je pense que l'Europe et l'Afrique sont en train de réaliser qu'on est pris en étau, quelque part, entre la puissance industrielle chinoise, et elle se matérialise par des déficits commerciaux énorme entre la France, l'Europe et la Chine, d'une part, mais aussi, et ça on l'oublie un peu, entre l'Afrique et la Chine. L'Afrique exporte 100 milliards chaque année vers la Chine, essentiellement des produits, des matières premières non transformées. Par contre, importe 175 milliards.
On parlait des minéraux, les terres rares.
Voilà, exactement.
On parlera la semaine prochaine dans Tech Business.
Et donc, il y a cette puissance industrielle chinoise qui fait peur et qui va en augmentant. Et de l'autre côté, il y a la puissance numérique et technologique américaine qui aussi se matérialise par des déficits énormes de transferts monétaires de l'Europe vers les États-Unis, mais aussi de l'Afrique vers les États-Unis. Et donc, pris en étau, dans le même étau, l'Europe et l'Afrique ont un vrai partenariat à construire ensemble.
Et quand on parle de coproduction, ça veut dire quoi ?
Dans un certain nombre d'industries, de chaînes de valeur, on peut tout à fait coproduire ou produire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple, c'est un peu le Maroc, hein, qui est devenu une zone de production automobile, aéronautique, avec la France et avec l'Europe,
et où en fait, et qui s'est bâti. Enfin voilà, c'est sur des dizaines d'années.
Quand c'est même, un effort long. L'industrialisation, plus, hein, si on les stratégies industrielles, c'est un effort qui se poursuit sur plusieurs années, qui nécessite des investissements dans les ressources humaines, dans la logistique, dans l'industrie. Il faut des partenaires économiques qui vraiment jouent le jeu. Mais on se rend compte que dans l'automobile, France plus Maroc parfois a été plus compétitif que la Chine. Et c'est ça vraiment ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de délocaliser des investissements et des emplois d'Europe vers l'Afrique. Il s'agit de substituer une partie de cet énorme déficit commercial qu'on a par rapport à l'Asie et d'importer une partie depuis l'Afrique. Et ça, ça nous renforce parce qu'on devient plus résilient, on a des chances de produire ensemble. Et en fait, c'est gagnant-gagnant pour l'Europe et pour l'Afrique.
Qu'est-ce que vous parliez de l'industrie automobile, donc il y a l'industrie manufacturière, les ressources, l'énergie, les services. C'est 1 000 milliards, c'est ça
Alors, aujourd'hui, il y a 500 milliards à peu près d'échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique. C'est assez équilibré, autant d'import et d'export. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut l'amener à 1 000 milliards. Il suffit pour ça d'être très intentionnel et de substituer une partie de ce qu'on est en train d'importer, qui aujourd'hui, la matière première est produite en Afrique, elle part en Chine, elle est transformée en Chine, elle repart en Europe. Oui. Pourquoi ne pas industrialiser en Afrique? Et ça peut être gagnant-gagnant, comme je disais, pour l'Europe et pour l'Afrique. Et le potentiel, c'est de doubler ces échanges commerciaux.
Et puis moi, je pense toujours à l'IA. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois en disant que l'IA... alors nous, déjà, on a ce problème d'avoir trop de biais américains, parce que les IA sont entraînées sur les Américains. Mais alors, les Africains, en plus, avec une culture qui est très par la voix, enfin vocale...
L'IA, c'est un énorme potentiel pour l'Afrique.
Et là, ce serait de disparaître presque dans les entraînements dédiés à des cultures.
Le sujet, c'est le même pour l'Europe et l'Afrique, c'est comment on est producteur et pas seulement consommateur de services numériques. Le vrai risque, c'est d'être juste des consommateurs. Alors, c'est très bien, ça fait gagner plein de choses, la productivité, des services. Mais si on peut être aussi producteur et donc s'approprier une partie, que ce soit en Europe ou en Afrique, on a tout à y gagner. En tout cas, on a à y gagner une certaine indépendance et une certaine souveraineté.
Nashwad, Patrick parlait justement de l'exemple automobile qui marche entre la France et le Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui montrent comment le Maroc, lui, qui s'est imposé comme un hub industriel, vous en avez d'autres
à nous? Oui, bien sûr, il y a plusieurs exemples et je peux vous en citer quelques-uns d'ailleurs au sein de cette coalition donc d'acteurs africains et français de partenariat. Prenons par exemple dans le secteur du tourisme, le groupe Accor, qui a noué un partenariat fort avec le groupe nigérian, qui est aussi un groupe panafricain, Shoreline, qui ensemble créent la première plateforme hôtelière au Nigeria. Donc c'est plus de 8 chaînes d'hôtels qui vont ouvrir un peu partout.
Nigeria qui est immense, comme la population.
Qui, d'ici 2050, sera le pays le plus peuplé d'Afrique. Tout à fait, au Nigeria, et qui en plus crée une académie de formation justement pour accompagner tous ces métiers du tourisme, de l'hôtellerie. Donc on voit la valeur créée aussi bien au niveau local, régional, et puis en termes de capital humain, c'est accompagner aussi non seulement le pays mais cette aussi nouvelle génération pour travailler dans ces secteurs qui sont à fort potentiel. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi de nombreux groupes français comme par exemple le groupe Orange qui investit dans, on parlait de digital et numérique, dans la formation en Afrique, avec l'ouverture là d'ici 2030 de plus de 50 Orange Digital Center pour accompagner la nouvelle génération dans les métiers de la tech, dans le digital, et aussi apprendre à être entrepreneur dans ce secteur-là.
Et on rappelle, si vous suivez avec votre association, la French African Foundation, la création justement de ces nouvelles générations de leaders, et puis voilà, entre la France et l'Afrique. Qu'est-ce qui pourra empêcher cette dynamique d'accélérer? Là, je pose la question 2, mais je démarre avec vous, Patrick.
La première chose, et ce sur lequel la French Africa Foundation œuvre, et Nashwat œuvre, et nous, on les soutient parce qu'on pense que c'est très positif, c'est de changer le narratif. Le narratif de l'Afrique, moi j'étais stupéfait, j'ai passé plus de 10 ans basé en Afrique, en voyageant en Afrique, je continue à voyager beaucoup. On voit la croissance, la dynamique, des start-up, beaucoup de choses très positives, et puis on arrive en France, et alors là, c'est... on est encore dans les années 80, on ne voit que les problèmes. Alors effectivement, il y a des problèmes, mais il y a aussi plein de choses fantastiques, d'initiatives de croissance. C'est quand même le continent avec l'Asie qui a la plus forte croissance dans le monde, et ça a plutôt tendance à s'amplifier. Et donc on est assez surpris parce que finalement on a un continent qui est juste en face, entre guillemets, avec lequel on a une communauté d'histoire, mais surtout de futur. On le voit, si l'Afrique rate, ça va pas être très bon pour nous. Et sur lequel on est leader, c'est quand même le seul, qui est en croissance, où il y a un énorme potentiel. Et au lieu de regarder positivement comment on peut en tirer profit, au sens gagnant-gagnant du terme,
on reste sur des vieux schémas,
on est là juste à regarder les 3 ou 4 pays sur lesquels ça se passe mal. On oublie que la France, en fait, a une assez bonne image dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Afrique anglophone. Et on l'a vu, ce qui s'est passé à Nairobi, aucun pays dans le monde n'est capable d'avoir les 20 CEO des plus grandes entreprises africaines qui viennent, je parle pas des chefs d'État, déjà les chefs d'État, 34, mais 20 CEO qui viennent avec 20 CEO français, et ça on a quand même un vrai atout, et donc il faut pas partir perdant, il faut au contraire changer le narratif et investir, parce que notre avenir est largement en Afrique.
Et donc investir dans les infrastructures, la logistique, l'énergie, la formation, davantage, on parlait des chefs d'entreprise et des chefs d'État, davantage peut-être de partenariats aussi public-privé.
Oui, tout à fait. Il y a ce qu'a dit Patrick est absolument fondamental. Changer le narratif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire considérer aujourd'hui l'excellence africaine. Qui sait aujourd'hui en France que l'un des premiers employeurs européens est un acteur africain, Moulay Hafid El Alami, qui est actionnaire de Téléperformance, par exemple. Donc, c'est aussi donc mettre en avant ces réussites africaines et françaises, et ça, c'est absolument, c'est très important. Mm-hmm. Et puis ensuite, c'est une question de leadership politique. On doit quand même au président de la République française le fait d'avoir porté ce sommet et d'avoir encouragé cette mobilisation à la fois politique et économique.
En plus, dans un pays anglophone, parce que ça aurait pu être dans les pays un peu plus classiques francophones.
Tout à fait. Donc, ce positionnement et finalement ce leadership que la France a, il est aussi encouragé par des positions politiques assumées et fortes au plus haut niveau. Et je crois que ça, c'est important. Et d'ailleurs, ce sera une question à pour 2027.
D'accord. Et il y a un prochain rendez-vous, les Africa Days, c'est
ça ? Tout à fait. Alors, rendez-vous le 3 octobre prochain à Sciences Po pour le plus grand rendez-vous.
Là, à Paris.
À Paris, à Sciences Po Paris. Donc, plus grand rendez-vous d'Afrique en France autour des réussites africaines. Voilà.
Et bien voilà, rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Nashwat Megwar, directrice générale de la French African Foundation, donc qui aide à la création de nouvelles générations de leaders engagés entre la France et les pays africains. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine. Et Patrick Dupoux, qui nous parle toujours avec beaucoup d'enthousiasme, directeur associé senior BCG et spécialiste, beaucoup d'enthousiasme de l'Afrique, bien entendu, spécialiste de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis pour ce programme BFM Stratégie sur l'Afrique et la France, un partenariat à réinventer. Et à très bientôt pour un nouveau programme BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.